La folie de grandir.
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 Bonjour et bienvenue sur 48 FM. Il est 13h, nous sommes actuellement en direct pour l'émission La folie de grandir. Au programme aujourd'hui, nous aborderons les sujets de la santé, de la migration, de la technologie, de la musique et de la sexualité, le tout chez les jeunes. Nous avons la chance d'être accompagnés avec Souki, ma coprésentatrice.
Coucou.
Lei en régie.
Salut à lui.
Lou, Noé, Denis.
Oui.
Bonjour.
Et moi-même, Emma. Nous allons tout de suite commencer avec Souki. Bonjour Souki.
Bonjour.
Tu vas aujourd'hui nous parler d'un sujet très important, la migration.
Dans cette émission, nous aborderons plusieurs thèmes en lien avec la jeunesse. Un sujet souvent oublié est le thème de la migration. Car oui, il touche aussi beaucoup de jeunes. Les jeunes migrants représentent plus de 100% des 10% des 232 millions de migrants internationaux. Et comme ils sont dans le groupe social le plus mobile, ils forment l'essentiel des mouvements migratoires annuels. Je suis partie dans les rues de Liège, micro à la main, afin de récolter vos avis. Et je vous ai demandé ce que vous pensez de la migration chez les jeunes.
Que c'est tout à fait normal. On est des hommes, on a des jambes, on n'a pas des racines. On est fait pour bouger. Du coup, c'est à certains points mal contrôlé. Du coup, il y a des immigrés qui peuvent venir ici qui n'ont pas d'aide d'emploi, qui n'ont aucun soutien, qui sont un peu... qui ne savent pas quoi faire.
La migration, ça a un impact positif sur la culture et sur le pays, à mon sens, dans la mesure où on peut apprendre de tout le monde.
Réponds d'abord.
Moi, je pense que c'est important pour eux, etc., de pouvoir fuir leur pays, etc., où il y a la guerre ou des galères, etc. Moi, je suis pour. Je pense que c'est normal. Voilà.
Je partage ton avis, voilà.
Non, je pense juste que immigrer d'un pays en autre, c'est jamais facile quand on est déjà adulte, alors quand on est enfant et qu'on n'a pas forcément envie de ça et qu'on doit s'adapter en plus à une nouvelle culture, à tout un nouvel environnement, et qu'en plus les enfants à l'école c'est pas forcément les gens les plus gentils, encore plus quand on est différent, donc c'est pas la meilleure chose à faire.
Je pense que souvent ils n'ont pas trop le choix, soit ils sont embarqués avec leur famille, ou je suppose. Ou soit s'ils viennent seuls, c'est qu'ils sont vraiment complètement paumés et qu'ils n'ont pas trop le choix, quoi. Maintenant, après, je connais pas trop comment est-ce qu'ils sont pris en charge après ici. Et... voilà, sinon j'en pense quoi? Je pense que c'est des pauvres gens, que quitter son pays parce qu'il est en guerre ou quoi que ce soit, c'est malheureux.
Déjà, l'immigration, je suis totalement pour, sinon je pense que je ne serais pas là. Déjà, avec mon papa et ma maman. Et je trouve ça bien, déjà, parce que... il y a des gens, par exemple, moi, je connais des gens de plusieurs cultures et qui sont venus de pays en guerre, par exemple. Et on peut se faire des clichés. Par exemple, les gens sont méchants, mais au contraire, ils sont super gentils.
Mais je peux comprendre qu'il y a un souci de place où on ne peut pas caser tout le monde, mais je pense qu'on trouvera toujours un moyen et je suis totalement pour. Enfin, et à un moment donné, on a plein de pays en Europe qui ont plein de places. Je ne vois pas pourquoi ce serait compliqué. En plus, ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas travaillé. Ce n'est pas comme s'ils ne veulent pas apprendre la langue. Quoi. Donc, voilà.
Donc voilà, donc pour la plupart, vous étiez pour la migration. Et donc, j'ai eu l'idée de traiter ce sujet à la suite d'une découverte, celle d'un livre qui m'a été présenté par mes grands-parents, avec qui j'ai été voir l'adaptation au théâtre, qui est Notre Soleil de Fran Kuruma.
Donc, qui est cet auteur et qu'est-ce que raconte ce récit? Raconte-nous tout.
C'est plutôt un témoignage qui raconte sa traversée pour arriver en Europe, en passant par la séquestration, l'esclavage et les tortures. Armé uniquement de son téléphone, il s'est retrouvé avec 800 pages et les a réécrites en livre et par la suite en pièces de théâtre. C'est très très émouvant comme livre et comme témoignage parce qu'on n'imagine pas la souffrance qu'ils subissent. Il retrace parfaitement le combat des journaliers, des immigrés en recherche d'une vie meilleure, car oui, il faut savoir que l'immigration, ce n'est pas une finalité en soi. Les jeunes espèrent juste un meilleur avenir. Si la migration internationale représente l'occasion pour les jeunes et leurs familles d'accéder à une ville, à une vie meilleure et de poursuivre leurs études, d'améliorer leurs compétences et perspectives professionnelles ou de satisfaire le désir d'épanouissement personnel à travers les aventures et les défis associés à la vie à l'étranger. Cette émigration s'inscrit dans un contexte de fort chômage chez des jeunes et d'absence de création d'emplois décents chez eux. Pour en parler davantage, on s'est dit qu'un témoignage valait mieux que 1000 mots. Nous avons reçu dans nos studios Emmanuel, une MENA, une mineure migrant non accompagnée. Emma, tu t'es chargée de l'interview, nous l'écoutons.
Là j'ai quoi, j'ai 24 ans et c'est sorti, je devais avoir genre 20 ans je crois, un truc comme ça. Et je pense que pour les plus jeunes, genre qui...
Pas le bon extrait, désolée.
Nous allons maintenant accueillir Emmanuelle Ngoma. Elle est âgée de 17 ans et est accueillie au centre pour MENA, Relais du Monde, en région namuroise. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 17 ans et je viens du Congo-Brazzaville et je suis venue demander la protection en Belgique.
Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter votre pays ?
Moi, avant, j'avais des problèmes aux oreilles et du coup, j'étais partie en France pour ça. Mais je ne sais pas vraiment la cause pourquoi ma sœur et son mari ont quitté le Congo pour demander la protection.
Et êtes-vous venue donc seulement avec votre sœur et votre mari ou avec également d'autres personnes ?
Non, avant, j'étais venue avec ma mère qui m'a laissé tomber. Et du coup, ma sœur, elle est venue et je suis venue qu'avec eux, on va dire.
Ok. Quel a été votre parcours avant d'arriver en Belgique ?
J'étais d'abord en France. Les études là-bas, c'était compliqué pour moi. Je ne faisais pas de long trimestre. Je ne faisais que 2 trimestres sur 3, parfois 1 trimestre sur 2 sur 3. Et ça, c'est à cause de la copine de ma sœur qui m'a hébergée pendant un long moment. Mais ça ne s'est pas trop bien passé. Et du coup, bah...
Et comment s'est déroulé votre voyage du Congo jusqu'en Belgique ?
Bah, comme je l'ai dit, j'ai quitté le Congo pour la France et la France pour la Belgique.
Et comment ça se passe pour vous au niveau administratif en Belgique ?
Bah, on nous donne des cartes oranges. C'est un peu comme des cartes d'identité belge, mais pour les immigrants en fait.
Donc vous restez légalement en Belgique ?
Oui.
Quel est votre plus grand rêve sinon ?
C'est de voyager partout dans le monde.
Et que voudrez-vous faire plus tard ?
Pharmacienne.
Et rester en Belgique ou retourner au Congo ?
Non, si je retourne au Congo, je suis morte.
Et pour quelle raison ?
Y a le père du mari de ma sœur qui était un politicien et il était recherché par... en fait, il était... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... Il voulait pas du président actuel. Et du coup, bah, il voulait que ça soit son cousin. Bah, du coup, ça a créé une guerre entre eux. Et il est obligé de se cacher. Et quand mon beau-frère a rencontré son père, parce qu'ils ne se sont jamais vus, jusqu'à l'âge de, on va dire, 30 ans, quand ils se sont rencontrés, c'est où il y a eu tous les problèmes qui sont arrivés. Ils ont commencé à nous menacer, ils nous ont volés, ils nous suivaient. C'était vraiment la merde.
Ah, bah merci beaucoup pour votre témoignage, Emmanuel, et bonne journée.
Merci à vous aussi.
Et c'est tout pour cette chronique. Nous allons demander l'avis des personnes ici présentes dans le studio. Qu'en pensez-vous ?
Bah, personnellement, je trouve que ça a été vraiment très compliqué pour elle et je la trouve vraiment très forte. Avec tout ce qu'elle a vécu et par tout ce qu'elle est passée, bah, je trouve ça vraiment cool qu'elle est venue ici pour en parler.
Bah, moi, je trouve que c'est un beau parcours. C'est un parcours qui doit sans doute être assez compliqué pour elle de devoir changer comme ça de pays deux fois. Ça doit quand même être lourd. Et puis d'être abandonnée par sa maman, c'est aussi quelque chose de compliqué, à mon avis.
Oui, arriver en Belgique, je suppose, sans aucun repère. Nous, on n'a jamais été confrontés à ce genre d'expérience. Et ça doit être... compliqué, franchement.
Moi, j'ai trouvé que, franchement, elle parlait super bien et qu'elle était très, très à l'aise, donc franchement, super courageuse. Et en général, oui, je trouve que voilà, l'immigration, c'est quelque chose de triste, mais en même temps, je trouve ça beau que différentes cultures puissent se mélanger comme ça. Donc voilà, c'était notre chronique sur l'immigration. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur l'Instagram de l'émission La Folie de Grandir.
Oh. qu'est-ce qui est collé le plus souvent aux oreilles des jeunes ? Ce sont les écouteurs, bien évidemment. Et oui, les jeunes entre 15 et 20 ans sont les plus grands consommateurs de musique.
Oui, c'est ça. Et nous avons abordé aujourd'hui plusieurs thématiques pour faire le lien entre les jeunes et la musique. Si je vous dis musique, arrivez-vous à faire un lien avec la jeunesse ? Non ? Eh bien, pourtant, il est assez simple. La musique fait partie intégrante de notre vie. Chaque génération vit avec sa musique. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quelle influence a la musique sur les jeunes ? Quel genre entre le rap, la pop, le rock ou le classique est le plus écouté parmi les jeunes ? Se sent-il aidé grâce à la musique et pourquoi ? Quel impact ont les générations sur l'évolution constante de cette dernière ? Ou encore, quels sont les moments ou endroits où les jeunes écoutent le plus de musique ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui.
Pour commencer, tu as réalisé un sondage auprès d'une petite communauté pour récolter quelques avis.
Et exactement. J'ai demandé sur Insta quel était le type de musique que les personnes écoutent le plus. Et voici ce qu'il en ressort. 2% sont pour le classique, 9% pour le rock, 26% pour la pop et 63% pour le rap. On constate donc une nette dominance du rap qui s'impose ces dernières années comme le style de musique à la mode.
Et cette musique influence-t-elle la jeunesse ?
La musique exerce une influence significative sur la jeunesse de plusieurs manières. Elle permet de s'évader, de se déconnecter du quotidien. Les jeunes accordent une grande importance à certains artistes, parfois en prenant exemple sur eux à travers leurs clips. Ça les aide à gérer leurs émotions et à se reconnaître à travers les paroles. Elle peut jouer un rôle éducatif en transmettant des valeurs et des connaissances. Et cette influence sur le comportement des jeunes est notable, qu'elle soit bénéfique ou négative. Les paroles et les thèmes musicaux peuvent être dangereux, notamment lorsqu'ils promouvent des comportements risqués. La musique peut véhiculer des messages importants et refléter la culture de la société.
Se sent-il aidé grâce à la musique et pourquoi ?
Selon le sondage réalisé sur Instagram, 100% des réponses étaient affirmatives. Les jeunes se sentent souvent aidés grâce à la musique et cela s'explique de plusieurs façons. La musique se ressent profondément, elle va au-delà de l'écoute et touche le cœur. Elle est porteuse de messages, d'émotions, ce qui en fait un puissant moyen d'expression. Elle offre un échappatoire permettant de s'évader des soucis quotidiens. Elle permet aux jeunes de s'identifier à travers les paroles et la mélodie. Elle les fait se sentir accompagnés, surtout dans les moments de solitude. Elle aide à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent intérieurement. Les chansons abordent des sujets qui les touchent personnellement aussi. Si on écoute de la musique, ça les aide à se canaliser, à se comprendre eux-mêmes. C'est un moyen de se créer un repère, de se mettre dans leur bulle pour penser à autre chose. Ça leur donne de la force, les inspire à surmonter leurs difficultés. Elle agit comme un moyen de protection, les enveloppant d'une bulle d'émotions positives. Enfin, la musique peut jouer un rôle préventif en éduquant et en sensibilisant les jeunes à diverses questions.
Quels impacts ont, ont les générations sur l'évolution constante de la musique ?
Alors, ces jeunes consommateurs avides de musique ont un impact majeur sur l'industrie. Leur préférence pour une consommation rapide a conduit à une production musicale de plus en plus frénétique, mais cette vitesse peut se traduire de deux manières, soit en stimulant l'innovation et la diversité musicale, soit en simplifiant exagérément les compositions. Ainsi, les nouvelles générations jouent un rôle essentiel dans la direction que la musique moderne marque une époque où la créativité et la commodité se croisent sur les ondes.
La musique, sur le mode de consommation maintenant, peut-on dire que comment et où les jeunes écoutent leur musique ?
Les jeunes écoutent de la musique dans divers contextes, des transports en commun aux soirées entre amis. La rue devient leur scène personnelle, tandis que la musique les accompagne dans leur trajet quotidien. Les soirées sont l'occasion de danser et de se divertir. En solitaire, dans leur chambre, sous la douche ou au lit, la musique les réconforte et les détend. En cas de colère ou de déprime, la musique est un exutoire émotionnel. En voiture, elle transforme chaque trajet en une expérience musicale. Partout où ils vont, la musique est un fidèle compagnon. Elle est devenue bien plus qu'une bande son. C'est un compagnon de tous les instants pour la jeunesse d'aujourd'hui. Du coup, j'ai récolté un petit témoignage ainsi que, qu'une réponse sur Instagram de Gwendoline Heller qui me dit « Je pense que si je n'avais pas eu la musique, je serais devenu débile. C'est con, mais par exemple, dans une chanson, ça parle de harcèlement scolaire, etc. Et sans ça, j'aurais jamais remarqué que c'était du harcèlement, ce que je vivais. Donc, la musique fait aussi office de prévention. Et tout de suite, je vous offre le micro-trottoir que j'ai récolté. Quel impact a la musique sur toi ?
Je dirais que ça a un impact plutôt positif de pouvoir se relaxer en écoutant la musique qu'on aime et se remettre dans les paroles qui sont dites. Il n'y a que du positif, je trouve, dans la musique et tout le monde devrait en écouter, je trouve, peu importe le style.
Bah, c'est quelque chose de, on va dire, très important. Même si c'est pas quelque chose que j'écoute souvent ou quoi, de temps en temps, ça fait toujours du bien. On a besoin de ça. Je trouve que c'est quelque chose qui nous permet de vivre et d'être plus heureux.
On va dire que ça me soutient. C'est un peu le bras droit, tu vois. Genre, quand t'es pas bien, bah, t'écoutes des musiques un peu tristes. Et ça te rend pas forcément plus triste, mais juste ça t'accompagne. Moi, c'est ça. C'est surtout sur les émotions et tout.
En fait, musique, ça peut mettre dans un mood complètement différent. Genre. C'est ça que j'aime bien.
L'impact que la musique a, moi, est total, on va dire, entre guillemets. Part du principe que la musique est contextuelle. Peu importe le style de musique, il y a un contexte pour l'écouter, pour moi, en tout cas. Et je vis, je dors, je mange, je me douche en musique, pour moi, entre guillemets, dans toute ma vie.
Elle a un gros impact, parce que bah, je parle à une danseuse. Je suis, du coup, diplômée du conservatoire, le premier conservatoire de France à avoir intégré le hip-hop dedans. Donc vraiment une dinguerie. Donc, parce qu'au début j'étais spécialisée dans le break, donc j'allais faire des battles, machin, et je pense que tu sais très bien que pendant les battles, la musique, très important. Et après j'ai découvert le hip-hop contemporain avec du coup Mourad Merzouki, hein, mon chorégraphe préféré ever, c'est l'amour de ma vie. Et du coup moi je me suis spécialisée dedans, donc je suis diplômée, je peux être prof de danse. Voilà, c'est vraiment quelque chose, moi quand j'entends une musique directement ça part, tu vois, je suis vraiment entraînée là-dedans. Et pareil, tu vois, je mange musique, je dors musique, j'écoute tout le temps de la musique. Tokyo Hotel classique, bim bam boum. Non, j'adore la musique, j'adore les nouveaux instruments, je suis quelqu'un qui est très lunaire en fait, tu vois. Je suis souvent dans la lune et quand je me mets dans un son, c'est terminé, je n'entends plus rien, tu vois, donc c'est vraiment très important pour moi.
En conclusion, la musique est un élément incontournable de la vie des jeunes, influençant leur style, leurs émotions et leurs choix. Les résultats du sondage Instagram montrent que le rap est le genre musical le plus populaire parmi les jeunes, avec une écrasante majorité de votes. La musique exerce une influence profonde en les aidant à s'évader, à s'exprimer et à trouver du réconfort dans les moments de solitude, de colère ou de déprime. Elle est également un moyen de se connecter à la culture et aux valeurs de la société. Les nouvelles générations, en consommant de la musique à un rythme effréné, contribuent à façonner l'industrie, stimulant parfois l'innovation, parfois la simplicité excessive. En fin de compte, la musique est un compagnon omniprésent pour les jeunes, les accompagnant dans chaque coin de rue, à travers chaque trajet en transport en commun et à travers chaque émotion de leur vie. Elle va bien au-delà d'une simple bande-son. Elle est un élément essentiel de leur identité et de leur mode de vie.
Merci Lei pour cette chronique. Et pour vous, ici présents dans le studio, quel impact a la musique dans votre vie ?
Pour moi, c'est une thérapie. Enfin, la musique nous fait du bien. On peut passer par toutes les émotions. Il y a tout type de musique, des musiques tristes, des musiques qui vont être plus dans le rock, etc. Donc, il y a une large variété. Et oui, vraiment, la musique, c'est une thérapie. Ça nous aide dans la vie de tous les jours.
Du coup, moi, j'aime beaucoup la musique. Je trouve que oui, c'est un très, très bel art. Que c'est quelque chose... On peut facilement s'y retrouver dans certaines chansons. Et donc oui, j'adore. Et voilà, je suis pour le rap, évidemment.
Alors aussi, personnellement, la musique, ça a toujours été une très grosse part de moi parce que vraiment, ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Et surtout, je trouve que ça apprend aussi plein de trucs. Enfin, il y a plein de choses que je ne savais pas avant que j'ai appris grâce à la musique. Et du coup, vraiment, j'adore ça. Je pourrais pas vivre sans...
Moi, je trouve que la musique, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider à se développer soi-même. Et voilà, je pense que chacun doit se forger son propre style de musique, entre guillemets, et que c'est pas bon qu'on écoute tous tout le temps la même chose, parce que sinon c'est pas drôle.
Pour clôturer le débat, nous allons écouter « False Confidence » de Noah Kahan.
Le débat, il a duré une minute.
Don't take yourself so seriously. Look at you all dressed up for someone you never see. You're here for a reason, but you don't know why. You're split and uneven, your hands to the sky. Surrender yourself. And I wonder why I tear myself down to be built back up again. Oh, I hope somehow I'll wake up young again. All that's left of myself, holes in my false confidence. And now I lay myself down and hope I wake up young again. Hope I wake up young again. Don't let those demons in again. I filled the void up with polished out fake sentiment. Surrender yourself. And I wonder why I tear myself down to be built back up again. Oh, I hope somehow I'll wake up young again. All that's left of myself, holes in my false confidence. And now I lay myself down and hope I wake up young again. Hope I wake up young again. Take me seriously. Look at me all fucked up over someone I'll never meet. And I wonder why I tear myself down to be built back up again. Oh, I hope somehow I'll wake up young again. All that's left of myself, holes in my false confidence. And now I lay myself down and hope I wake up. Wonder why I tear myself down to be built back up again. Oh, I hope somehow I'll wake up young again. All that's left of myself, holes in my false confidence. And now I lay myself down and hope I wake up young again.
Une fois de plus, un phénomène étrange est apparu sur TikTok. Cette application très utilisée chez les jeunes peut parfois être très problématique.
En effet, la nouvelle trend est connue sous le nom de NPC, Non-Player Character, ce qui signifie personnage non-joueur en français. Le principe est simple, des créatrices de contenu vont se faire passer pour des personnages de jeux vidéo non jouables et chaque cadeau fictif qu'ils lui seront envoyés via TikTok sera parodié et répété en boucle. Par exemple,
it's so good, gang gang. Yes, popcorn. Attack it, this is so cute, gang gang. Yes, us, us, yes, us, us. Yes, fashion, it was so good, huh? It was you, Luminta. Yum, ice cream, so good, gang gang, gang gang. It was.
Par exemple, comme vous avez pu l'entendre, Pinky Doll, 23 ans, québécoise et créatrice de ce mouvement, est connue pour sa fameuse réplique Yes, yes, ice cream, so good. Oui, oui, la glace est bonne, qu'elle accompagne d'un tirage de langue, d'un bruit de bouche et d'une pub directe pour le donateur. D'ailleurs, cette réplique lui a permis de faire une musique. Mais beaucoup de personnes se demandent pourquoi autant de gens la regardent. Il est important de souligner qu'elle compte plus de 30 000 spectateurs par live et qu'elle réalise un chiffre d'affaires d'environ 2 000 dollars. D'après les recherches que j'ai menées, son contenu serait sexuellement implicite, car les donateurs sont souvent masculins et on voit souvent les cadeaux où elle va être amenée à bouger son corps. Elle a aussi affirmé dans une interview accordée à New York Times que depuis qu'elle faisait ses lives, elle avait eu une ascendance d'abonnés sur la plateforme érotique et pornographique payante OnlyFans, où elle est également présente. Elle insiste également sur le fait qu'elle se moque de la façon dont les gens la perçoivent, car à la fin de la journée, c'est quand même elle qui gagne. J'ai trouvé très intéressant la critique de Christine Train, qui a déclaré « Ce sont des créatrices autosexualisées qui ont construit le public en combinant l'esthétique de la culture gamer avec l'influence des Cams Girls. » Après, d'autres créateurs de contenu vont faire ce même genre de live, mais le live va moins être dit sexuel et va être plus qualifié de relaxant, doux, calme ou encore satisfaisant. Pour clore ce sujet, j'ai décidé d'aller interviewer des personnes dans les rues de Liège en leur montrant une vidéo de Pinky Doll et en leur demandant ce qu'ils en pensaient et si ce contenu était sexuel.
Je pense pas que c'est sexuel, et à mon sens, si il y a des personnes qui le font et qu'il y a un public pour ça et que ça fait de mal à personne, chacun fait ce qu'il veut à mon sens.
Oui, je trouve que c'est sexualisé parce que du coup elle fait des mouvements assez bizarres et des bruits aussi assez bizarres. Et ouais.
Ah, définitivement, oui, certaines femmes se sexualisent pour faire cette tendance.
C'est moyen, oui, non. Bah, peut-être que c'est pas une bonne idée de mettre ça sur TikTok. Voilà, simplement, c'est bizarre.
Y a sûrement une démarche sexuelle là-dedans, mais c'est surtout un truc plutôt psychologique. Je sais pas si les gens sont assez débiles que pour. Envoyer de l'argent, bah, elle serait tort de s'en priver, je veux dire, parce qu'elle fait rien de mal.
Comme ce trade-là, par exemple, mais je trouve ça un peu... Il y en a qui trouvent ça débile et il y en a qui trouvent ça marrant, mais... Moi, personnellement, il y a des choses que je trouve ça marrant, des autres trades que ça, mais celui-là, pas trop, quoi.
Nous allons maintenant écouter une musique de Are We Still Friends de Tyler, the Creator.
Thank you.
La folie de grandir, c'est aussi des découvertes. La découverte du monde, des relations entre personnes et avec soi-même.
Une chose qui tourne pas mal dans la tête des jeunes, c'est la sexualité. C'est un sujet tabou pour beaucoup, mais on a trouvé une série qui en parle plus qu'ouvertement, Sex Education. En voici un petit extrait.
Tu faisais semblant de te masturber, et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle.
Oh, j'aurais aimé que ma mère soit gourou du sexe.
Et si pour commencer, vous me racontiez votre plus ancien souvenir concernant votre scrotum?
Non, crois-moi. T'aurais détesté.
Voilà, je pense que ce petit extrait qui malheureusement ne s'entendait pas très fort résume assez bien cette série. Mais nous sommes allés demander le point de vue à d'autres personnes sur la sexualité abordée dans cette série.
Là j'ai quoi, j'ai 24 ans et c'est sorti, je devais avoir genre 20 ans je crois, un truc comme ça. Et je pense que pour les plus jeunes, genre qui devaient avoir 16 ans quand c'est sorti, ça peut être chouette, on apprend des trucs qu'on n'apprend pas forcément sur internet.
C'est bien parce que c'est nouveau de parler autant de la sexualité en essayant de déconstruire au plus. C'est novateur de parler de sexualité d'une manière plus déconstruite et plus ouverte.
Mais on n'est quand même pas dans le même but qu'une série comme par exemple Élite, qui est connue pour hypersexualiser des adolescents en fait, parce que c'est ça que la série représente. Dans Élite, ça va plus être de l'hypersexualisation pour l'hypersexualisation. C'est-à-dire que dans Sex Education, il y a quand même un autre but derrière qui est de la représentativité.
Sur la sexualité, c'est quand même bien. Il parle de choses assez importantes et ça permet aux jeunes de se poser des questions aussi, puisque c'est important. C'est un moment où on découvre son corps, etc. Et voilà, ça reste globalement plutôt positif que négatif, quoi.
Ça, c'est quand même une manière d'aborder certains problèmes, comme, je sais pas, par exemple, les problèmes de sécheresse vaginale ou des trucs comme ça, mais avec un ton humoristique, et ça, c'est pas plus mal, voilà.
Je trouve qu'elle explique bien la sexualité chez les jeunes, qui est parfois un peu mal expliquée dans les écoles.
La sexualité est bien transmise, pas trop en profondeur si je peux dire. Tous les sujets sont abordés, mais en surface, donc c'est ça qui est bien, c'est pas choquant ni rien, donc moi je trouve que c'est très bien.
Bien que les séries évoluent et parlent de plus en plus ouvertement de sexualité, la pornographie reste toujours très présente chez les jeunes. Ça, c'est le message sexiste envoyé dans les contenus. Les filles doivent charmer, plaire et se soumettre, quant aux garçons, eux, sont voués au culte de la performance. Selon l'étude Arcom, 2,3 millions de mineurs ont consulté des sites pornographiques en 2022. C'est un chiffre qui a augmenté de 36% en 5 ans. Cette augmentation est en partie expliquée par l'exposition aux écrans de plus en plus jeunes. Un enfant obtient son premier téléphone en moyenne vers l'âge de ses 9 ans et par le fait que les sites soient gratuits et sans réel contrôle d'âge. Il suffit d'un téléphone, seul dans sa chambre, à partir de simples termes de recherche « femme » et « sexe » introduits dans la barre de recherche, on peut avoir accès à 3 740 000 résultats en 0,35 secondes. Bien avant que leur vie sexuelle ait commencé, de nombreux adolescents ont déjà visionné des images pornographiques. La curiosité sexuelle n'est pas nouvelle, elle fait notamment partie de la construction identitaire d'un individu. Mais les parents ne sont pas forcément armés pour cela. Ces contenus ont énormément évolué au fil du temps. Les images sont très violentes, brutales, voire douloureuses, surtout à l'encontre des femmes. Ces vidéos sont très loin des catalogues de lingerie auxquels les parents pouvaient avoir accès. Psychologiquement, la pornographie touche davantage les garçons. Ils sont persuadés qu'ils doivent être performants, endurants et virils. C'est une idée qui peut avoir un réel impact sur leur expérience sexuelle. Leur vision d'une réelle relation peut être faussée. Ça peut rajouter une pression et une perte de bien-être. L'image du corps de la femme est également très faussée. Elle doit être parfaite, entre guillemets, aucun poil, sensuelle, dans toutes les situations et un corps sans vergeture ni bourrelet. L'accès aux informations par rapport à la sexualité a énormément évolué. En plus de l'accès très facile aux sites pornographiques, on peut retrouver sur Instagram énormément de comptes qui parlent sans tabou du sexe. À l'inverse du porno, il s'agit d'informations très réelles qui ne sont pas filtrées. Ça peut être une alternative pour l'éducation chez les jeunes. C'est parfois plus simple de regarder des publications sincères sur les réseaux sociaux qu'en parler avec des parents avec qui le sujet peut être difficile à aborder. On peut prendre comme exemple le conte de Camille Amoncarnel, « Je m'en bats le clito ». Le nom est déjà relativement révélateur du contenu. Elle cite dans une de ses publications « Je me suis regardée dans un miroir pendant un orgasme, même le mur, il a explosé de rire. » On peut dire que c'est normal.
En bref, bien que tabou, la sexualité chez les jeunes est un sujet important. En parler le plus tôt possible de manière contrôlée pourrait effacer ce tabou et peut-être préviser, éviter tout problème qu'il engendre. Pensez-vous que les séries aident à cet apprentissage ?
Bah, personnellement, je trouve que la série Sex Education parle vraiment très bien de tout ce qui est sexualité et autres. Mais par contre, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu as pu dire sur la pornographie, parce qu'il n'y a absolument pas que ça dans la pornographie. Certes, de manière très générale, bah, c'est refermé sur tout ce qui est patriarcal, le sexisme et tout. Mais de plus en plus, nous voyons que dans la pornographie, il y a de moins en moins de ça. Enfin, c'est mon avis personnel.
Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi. Quelque chose à dire ? Non ? Pour clôturer ce débat, nous allons écouter la musique Malade interprétée par Romeo Elvis.
Je veux tout seul. Moins de pression.
Une de perdue, une de perdue. Autant dire les choses comme elles sont. Il y aura quand même de la peine. Tant qu'on se rappelle de la veille.
Une de perdue, une de perdue. Autant dire les choses comme elles sont. Il y aura quand même de la peine, tant qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté, mais tu m'auras donné raison. À vouloir faire de la merde, t'avais le pouvoir de l'admettre.
Et toujours paré pour les excuses. Désolé mais toutes mes ex sus. C'est mieux que toi, la tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse.
Tu sais très bien.
Et y'a des putes même dans les églises. J'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus. Alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille.
Et là t'es où? Tu fais quoi? T'écoutes mes textes? J'en suis certain car les jalouses sont toutes les mêmes. Sous mes airs, j'en souffre encore. Cours en terre dans parcours en or.
Oh merde. Entre jeunes, on se dit souvent « Salut, ça va ?» et l'autre répond toujours « Oui et toi ?» comme marque de sympathie. Mais est-ce vraiment le cas? À l'heure actuelle, la santé mentale est tabou. Car comment un adolescent peut-il mettre des mots sur des douleurs mentales qu'il n'arrive pas à gérer lui-même? Tout d'abord, la santé mentale est divisée en plusieurs catégories.
Oui, il y a les troubles de l'apprentissage comme TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui touchent 3,1% des jeunes de 10 à 14 ans et 2,4% des jeunes de 15 à 19 ans en Belgique. Ensuite, il y a les troubles de l'alimentation qui sont caractérisés par un comportement alimentaire anormal ou une préoccupation excessive pour la nourriture accompagnée d'un manque cruel de confiance en soi. Nous pouvons citer la boulimie, l'hyperphagie ou encore l'anorexie mentale qui peut être mortelle. Hallucinations ou idées délirantes, alors tu es atteint de psychose. Ces expériences peuvent compromettre la participation de l'adolescent à la vie scolaire quotidienne et qui sont souvent signes de stigmatisation. Pardon. Et enfin, pour terminer, le suicide et l'automutilation. C'est la quatrième cause de mortalité chez les jeunes. Souvent, les personnes qui se mutilent et ou se suicident accompagnent cette souffrance avec de l'alcool et des substances illicites.
Comme dit précédemment, souvent les jeunes vont se sentir mal mentalement et vont avoir tendance à prendre des substances illicites, de l'alcool ou autre. Mais pourquoi ? La drogue va leur donner une sensation de monde parallèle, monde de bisounours avec une redescente de ce monde magique et d'être encore plus mal qu'avant la prise. C'est pareil pour l'alcool. En consommant celle-ci, ils vont croire que leurs souffrances vont s'envoler. Ce sera leur moment de délivrance, mais faites très attention car les conséquences postérieures vont mettre les personnes encore plus mal. Sachant que, petit rappel, les substances illicites, tout comme l'alcool, sont normalement interdites jusqu'à 18 ans. J'ai interviewé une personne qui n'a pas une vie facile et qui a une santé mentale complexe. Je vous laisse écouter. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la santé mentale. C'est pourquoi nous avons demandé à un invité de nous témoigner un petit peu sa vie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons vous demander de vous présenter.
Moi je m'appelle Aiden, du coup j'ai 14 ans, je fais partie du mouvement punk.
On a beaucoup parlé de santé mentale dans cette chronique. Mmh. Est-ce que c'est un sujet que vous connaissez ?
On va dire que oui, je le connais plutôt bien parce que je suis pas forcément diag, mais j'ai plusieurs maladies mentales, du coup, mmh. Plutôt reliées à tout ce qui s'est passé avant d'être ici.
Comme quoi, comme maladie mentale ?
Tout ce qui est trouble borderline, tout ce qui est TDI, donc trouble dissociatif de l'identité, TDAH, enfin plein de quelques trucs.
D'accord. Et quelles ont été les choses les plus compliquées à vivre dans votre vie et les gens à qui vous tenez les plus et qui vous ont le plus aidé ?
Alors, ce qui est le plus compliqué quand par exemple on a un TDI, c'est que des fois, les alters, donc les autres personnes qui sont avec moi dans mon corps, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, dit comme ça, mais voilà, ils peuvent venir à n'importe quel moment. Donc des fois, par exemple, je suis en cours ou des trucs comme ça, et y a un alter qui va venir et il va pas forcément comprendre pourquoi est-ce qu'il est là et il va devoir faire semblant de rien parce que tout le monde n'est pas dans mon entourage, pas forcément au courant. Voilà. C'est vrai que parfois, c'est compliqué, genre... tout ce qui est l'école, les rendez-vous importants, ça peut être difficile.
Et du coup, quels ont été les gens à qui vous tenez le plus et qui vous ont le plus aidé ?
Je dirais mon grand frère de cœur, qui a été beaucoup là pour moi, qui a été là pour m'aider dans tout ce qui était crise, etc. Sinon, y a son copain aussi, qui est mon deuxième grand frère de cœur, à qui je tiens énormément. J'ai pas un très grand cercle, mais tout ce qui est mes amis, etc., j'y tiens énormément.
D'accord. Et comment vous sentez-vous à l'heure actuelle ?
Un peu stressée, mais sinon ça va, je me sens bien.
D'accord. Et comment voyez-vous votre avenir, dans le sens large ?
Alors, pour le moment, je suis à Saint-Luc, donc du coup, j'aimerais bien plus tard faire tatoueur, mais sinon, honnêtement, j'ai pas vraiment beaucoup de projets d'avenir. Parce que c'est compliqué avec les maladies d'essayer de se projeter dans un lointain futur.
D'accord. Et niveau santé mentale, vous pensez que ça va toujours rester de la même manière ou que ça va évoluer ?
En fonction de ce qui va se passer, ça peut s'aggraver ou ça peut certaines diminuer ou essayer de s'atténuer un maximum. Après, pour essayer que ça aille, on va pas se mentir, il faut aller voir des psys, moi, je suis déjà allée en hôpital psychiatrique, etc. Donc,
Et pensez-vous que ça vous a aidé d'aller en hôpital psy et de voir beaucoup de psy ?
Les hôpitaux psy, c'est quelque chose d'assez controversé parce qu'en fonction de ton profil et en fonction de comment tu vas réfléchir, comment tu vas agir, etc., ça peut ou pas te convenir. Moi, personnellement, ça ne me convient pas tellement. Donc, je ne sais pas si on peut dire que ça m'a aidé, mais au moins, ça m'a permis de faire une pause sur la vie active, entre guillemets.
Et tout ce qui est... psychologue et psychiatre, ça vous a aidé ou non ?
Pareil, ça dépend parce que tous les psychologues et les psychiatres ne fonctionnent pas de la même façon, donc du coup, il faut chercher pour trouver quelqu'un qui nous convient.
Et là, vous l'avez trouvé ?
Pour le moment, on n'en a pas, mais on est en recherche.
D'accord, merci beaucoup.
Merci.
Il faut que vous sachiez qu'à un moment, si vous vous sentez mal, vous avez plusieurs solutions devant vous. Première, en parler avec vos parents. Même si ce n'est pas facile, ils seront là pour vous écouter et vous aiguiller afin que vous vous sentez au mieux. Il y a aussi des MADO qui existent. En gros, ce sont des maisons d'adolescents où il y a une psychologue, assistante sociale et avocat qui sont là pour t'écouter et te parler de ta situation gratuitement. Pour celle de Liège, vous pouvez téléphoner au numéro 042 385 620. 042 385 620. Entre 10 et 17 heures, du lundi au vendredi. Ou sinon, vous pouvez directement aller au boulevard d'Avreuil, 5 4000 Liège. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous chez un ou une psychologue de la région, puisque bonne nouvelle, les consultations sont passées de 60 à 11 euros depuis janvier 2023, et ce, partout en Belgique. Et même si vous avez honte ou peur qu'on se moque de vous, sachez que la psychologue a devoir de ne rien dire de la consultation. Maintenant, si les psychologues ne te conviennent pas, d'autres alternatives peuvent être essayées comme la thérapie brève. Une thérapie brève, par définition, est une thérapie psychologique qui consiste à résoudre certains troubles sur une courte période avec une méthode spécifique centrée sur la solution, et ce parfois même en une ou deux séances. Parmi elles, on compte la thérapie des schémas, selon l'école de Palo Alto.
Mais n'oublions pas que nous ne pouvons pas nous autoprogrammer. N'oublions pas que nous ne pouvons pas nous autoproclamer malade mental parce que la décision doit être prise par un médecin spécialiste. Pour cette avant-dernière chronique d'émission, nous allons parler de l'amour et plus profondément sur la dépendance affective qui revient de plus en plus en force, surtout chez les jeunes.
Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la dépendance affective ? La dépendance affective est le fait d'aimer tellement une personne jusqu'à en devenir accro, addict. Cette personne va vous faire la pluie et le beau temps dans votre tête. Un message d'elle ou de lui peut vous rendre si heureux ou alors si triste. Plusieurs études montrent que la dépendance affective touche aussi bien que les jeunes que les adultes. Beaucoup d'adultes m'ont déjà dit à moi ou à des amis que si nous étions tristes par rapport à une personne, c'était pas valide, car on n'était jamais sorti avec ou qu'on ne l'avait jamais vu ou ce genre de choses. Je voulais juste vous dire que si vous ressentez une ou plusieurs émotions, elle est valide et ce n'est pas à votre entourage d'avoir un avis là-dessus. Pour finir, je voulais vous lire un texte que j'ai écrit sur la dépendance affective. Juste avant d'en finir, je n'ai su comment te dire. C'était trop beau pour être vrai. Ce soir à te regarder dormir, un instant sans rien dire. Puis j'ai rejoint notre quai où toutes les étoiles qui brillaient dans tes yeux, mais ne sont plus dans mon ciel, où notre histoire ne pouvait qu'être pluvieuse. Juste un dernier soir à l'appart, avec cette dernière pensée maladive. Tous ces amours sans avenir, à cause de ton souvenir, m'empêchent de m'ouvrir à leur cœur, tous ces matins à vomir, à pleurer sans rien dire, sans ton contact contre mon corps, mais je ne veux plus en avoir de peine, ni même te donner de haine, juste un soir à l'appart, avec toutes ces pensées maladives. Prenez soin de vous et j'espère vous revoir dans une prochaine chronique.
Merci Lou pour ces belles paroles. Tout de suite sur 48FM, Léa Isabelle, ici présent sur le plateau avec sa musique Cyberpsychose.
Si j'attirais vers le fond, si j'attirais par les flammes, si j'attirais vers le fond. Si j'attirais par les flammes. La goutte fait déborder le vase, je me sens vidé comme une éponge. Plus rien de neuf, j'entends que des mauvaises nouvelles. On se détruit tous à petit feu au fond de la classe. Observe des gens créer des clones tapis dans l'ombre. J'attends le gong de plus en plus investi. Et ça augmente à chaque seconde. De plus en plus sain d'esprit. Et je vois que ça ne tourne pas rond. Pour l'être humain, je perds de l'estime, je peux pardonner et tout garder dans le cloud. Juste à côté des cicatrices qui rendent ma vie bancale. Flirte avec une banquière, docteur du cœur prend plus de mal. Au fond du cœur, on y trouve de l'espace. De plus en plus investi, le son augmente à chaque pression. De plus en plus sain d'esprit, mais comme Oilnam, je perds le compte. Si j'attirais vers le fond, si j'attirais par les flammes. Si j'attirais vers le fond, si j'attirais par les flammes. J'aimerais sortir la tête de l'eau car j'ai du mal à reprendre mon souffle. Y'a toujours une main qui la replonge avant de sombrer dans les abysses. Suis-je à deux pas de la réussite, peu importe, je tomberai pas dans le vice. Le manque de love me fait chuter, mais peu importe, je reste de plus en plus investi. J'attends toujours que ça ligne le gong. Si je tombe, je garde à l'esprit que se relever est une preuve de force. Pourquoi les faibles portent-ils la main quand les plus faibles sont à genoux? Pourquoi les faibles se laissent-ils faire tout ça par peur ou par amour? J'oublie que l'humain est parano, tu peux te faire buter par un autre malgré l'amour que tu lis. De plus en plus investi, et je repense à ces coups de pression. Plus j'avance, plus je perds l'esprit. J'attendrai plus de foutu gong. On placera à l'écart et bien au chaud.
Depuis plusieurs années, on a pu constater que la technologie a beaucoup et rapidement évolué, surtout dans la vie des adolescents. Plusieurs nouvelles technologies incitent les jeunes à rester sur leurs écrans, notamment des téléphones, des tablettes ou encore des ordinateurs ainsi que des consoles de jeux vidéo.
Y a-t-il un risque d'attachement pour les jeunes ?
Les appareils créés grâce à la technologie peuvent être source de dépendance. En effet, si avant les jeunes allaient dehors pour jouer avec leurs amis ou juste pour profiter du beau temps, ce n'est plus tout à fait le cas de nos jours. Ils préfèrent rester sur leur lit à échanger avec leurs copains au moyen d'outils internet et de systèmes de messagerie instantanée tels que les chats et les réseaux sociaux.
Est-ce que ça peut créer un détachement de la vie réelle ?
À cause des messages, plus personne ne prend la peine de discuter. En effet, pendant que la maman prépare le dîner dans la cuisine, son enfant lui envoie un message. Qu'est-ce qu'on mange pour le dîner ? Par conséquent, le contact humain ne se fait plus.
Y a-t-il un problème avec les différents réseaux sociaux ?
Ces réseaux sociaux peuvent également créer une certaine dépendance, car une fois qu'une personne s'y inscrit, elle doit absolument poster des photos d'elle ou aller voir les profils de ses amis.
Noé, pourrais-tu nous citer quelques points positifs de la technologie pour les jeunes ?
Prenons par exemple le téléphone. Une personne qui l'utilise pourra facilement résoudre les problèmes d'un individu. Cela serait également utile pour communiquer ou pour prendre des nouvelles de vos amis ou de vos proches. C'est aussi une façon très pratique de communiquer, de se divertir ou encore de jouer. L'un des avantages de la technologie se situe également au niveau des sociétés. En effet, le progrès peut procurer aux professionnels un gain d'argent très considérable. Grâce à Internet, ils pourront par exemple échanger plus rapidement et vendre et acheter des choses plus facilement dans le monde entier.
Pourrais-tu nous citer trois choses technologiques qui font évoluer l'humanité ?
Premièrement, le Green Think. Le Green Think consiste à recycler de manière intelligente. C'est un projet développé par Kelly Ling, ingénieur en informatique. Son projet vise à lutter contre les niveaux de pollution élevés au Liban, résultat d'une gestion inappropriée des déchets. Deuxièmement, l'Untercrush. Hafisa Sadir est une militante sociale tunisienne, blogueuse et fondatrice de Untercrush. C'est une plateforme en ligne conçue pour les jeunes entrepreneurs où convergent des personnes partageant des idées ou des intérêts identiques. Jeunes entrepreneurs, investisseurs ainsi que sponsors, cette initiative à but non lucratif encourage l'esprit d'innovation et l'objectif de développement durable qui promeut une croissance économique inclusive et durable. Troisièmement, la participation assistée par robots. Balida est un robot de messagerie conçu pour réduire l'écart de communication entre les autorités gouvernementales et les citoyens, ainsi que pour remédier au manque de participation citoyenne. Ce chatbot répond aux questions des résidents sur les questions liées au budget local, favorise la circulation ainsi que l'information et les participations citoyennes.
En bref, les jeunes et la technologie, c'est une grande histoire d'amour. Souvent décriés, ils ont réussi à créer de brillantes inventions et à en mettre de nouvelles et à les mettre au service de notre société.
Et c'est ainsi que conclut cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission et à sa bonne réalisation. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et passez une bonne fin de journée. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
La folie de grandir.
À bientôt.
La folie de grandir.
La folie de grandir.
La folie de grandir.
La folie de grandir. La folie de grandir.